si tu veux, entre 15 et 20 ans, j'étais au cours Simon, je travaillais mes textes, j'apprenais des scènes, j'ai rencontré plein de gens. Et là, j'ai travaillé en pensant que j'allais devenir comédien, que c'était ça le choix. Mais la musique, c'était mon, comment on pourrait dire, mon péché hobby, mignon, mon passion. Hobby, mon ma passion. Mais jusque-là, ça n'était pas forcément ce qu'allait devenir mon métier, je ne savais pas. Et du coup, j'ai tourné dans des films, dans un film avec Martine Carole. D'ailleurs, je devais être très jeune, je devais avoir 15 ans. Et c'est parti du cours Simon, parce qu'il passait des auditions, et il y avait des gens qui venaient chercher des acteurs pour des films. Et là, j'ai dû tourner 3 ou 4 films avec des petits rôles, dont un qui était La Verte Moisson, qui était sur la Résistance. Et il y avait Claude Brasseur, il y avait Jacques Perrin, il y avait... Et Claude, il s'en souvient aussi, Brasseur, il m'a dit, je rigolais en regardant. Mais pour tous ces gens, ça a été marrant parce que jusqu'à présent, même quand ils me voient, comment on peut dire, j'étais toujours sur la marge, enfin sur une ligne où on savait pas trop qu'est-ce qu'il foutait, ce jeune garçon. Donc je voyais des acteurs et des actrices quoi, que j'aurais jamais vu autrement. Et un jour, ils avaient fait une blague, ils avaient dit, on va envoyer le petit Jackie, puisqu'il m'appelait comme ça... chercher une actrice et ils me disent tu vas la trouver là-bas, tu frappes à la porte, tu rentres et tu lui dis qu'on l'attend sur le plateau. Et je frappe, entrez, j'ouvre la porte, Brigitte Bardot. J'avais 15 ans ou 16 ans, tu vois, j'étais, tu vois, belle, séduisante, gentille, adorable avec moi. J'ai dit, ben, je savais plus quoi dire, j'ai dit, on vous attend sur le plateau, c'est prêt. Il dit, comment tu t'appelles, Jacques? On m'appelle Jackie. Il me dit, ben, mon petit Jackie, je sais plus si elle m'a fait la bise gentiment, en me disant, ben, je viens, moi je suis sorti.
Jacques Higelin. Une production des radios francophones publiques sur France Inter.
Ben, bonjour.
Ben alors, il y a un ascenseur.
Réalisation, hein, Dominique Martineau Lagarde.
Surtout.
Ah ben non, il fallait prendre l'ascenseur. Vous aviez peur de ne pas tenir dedans, non?
Oui, à trois.
Et
oui.
Puis, là, se sont présentés toujours par le cours Simon, où j'étais toujours. Marie Laforêt était au cours Simon, avec sa sœur, Alexandra. Et puis. Marie a parlé de moi au réalisateur, Marcel Moussy, et ça s'appelait Saint-Tropez Blues. Et comme je jouais de la guitare, genre rock et tout ça, ils m'ont engagé pour jouer ce film. Et sur ce film, j'ai rencontré Pierre Goupil, le chef opérateur, le cadreur, et Henri Crolla.
Bah, c'était Saint-Tropez Blues, oui, avec Marie Laforêt. Et Crolla, lui, quand il fait une musique de film, il vivait le film, donc il fallait qu'il soit avec... Et les choses venaient au fur et à mesure, quoi.
Colette Crolla.
Et ça a été une très, très grande rencontre.
Et là, tous les soirs, ça a été une vraie rencontre. Parce qu'Henri a été, pour moi, quelqu'un hyper important. Un homme plein d'humour. Il avait 40 ans, j'en avais 19, 20.
C'était un peu le type de rencontre un peu incontournable, comme ça, qui peut se passer dans
une
vie. Ah,
mais c'est ça, le... Ce qui est formidable dans la vie, moi, ma rencontre avec Crolla, c'est pareil. C'est un cadeau fabuleux, quoi. Et qui change complètement votre vie.
Enfin, je l'ai vu faire des blagues pendant le film où j'étais son complice. Et on a monté des coups. Enfin, c'est surtout lui qui m'entraînait. Et où il allait jusqu'à la limite, quoi. Plus que la limite. Le moment où les gens croyaient que c'était sérieux et appelaient les flics, quoi. Et là, il était champion du monde. Et en même temps, une vraie culture musicale, en même temps, un esprit à la fois généreux, fraternel. C'était un copain de Prévert aussi. C'est un copain des Marx Brothers.
Et il a vécu un peu avec nous. Je crois que ça doit être entre le film Saint-Tropez, Blues. Il a dû revenir avec Henri. Et puis après, ils ont continué l'autre film. Ils ont fait l'autre film. Mais en fait, on on s'est toujours, on s'est jamais quitté pendant cette période.
Et donc, il fait qu'il est venu après, dans votre famille, se greffer à votre famille.
Ah ben oui, amené par mon fils, et puis on a eu le même coup de foudre. Enfin, c'était, il a fait partie de la famille tout de suite, quoi.
J'ai l'impression, par rapport à Henri Crolla, que vous parlez de lui comme un père spirituel.
Oui, tout à fait, j'allais dire le mot. Mais il y avait deux hommes en même temps, et il y avait trois personnes. Il y avait Henri, il y avait Pierre Goupil, le père, qui avait 10 ans de plus que moi, qui était cadreur, et qui, lui, m'a formé politiquement.
Sans doute, d'une part, effectivement, parce que j'étais très engagé, et d'autre part, surtout parce que ma culture, je me l'étais acquise. Donc, partant de là, j'avais plus de facilité pour la lui faire passer que quelqu'un de dogmatique. Elle était plus pragmatique, donc elle était plus proche de lui que si ça avait été un vrai maître. Et donc, partant de là, ça l'a plus intéressé que de parler du temps qui fait.
Donc, mon père était caméraman de cinéma et rencontre ce tout jeune homme qui démarrait comme comédien.
Romain Goupil.
Et il est devenu immédiatement un grand frère. Et ça n'a cessé depuis cette année-là. Il faut voir la période. Hein. Il a 19 ans, nous on a 10, 11 ans. Les parents sont... travaillent dans le cinéma, ils vont être amenés à faire des films à l'étranger. Du coup, ils vont confier comme babysitter, enfin le babysitting va être assuré par Higelin, qui avait quand même jamais que 10 ans de plus que nous, et qui était particulièrement déconnant, rigolo, entre la trompette, les copains. Il y avait Marco Picot, il y avait Nicole, qui va devenir Nicole Courtois, mais qui va devenir Nicole Higelin, sa première épouse, mais qui avait 18 ans, super. Superbe jeune femme à l'époque, et toute une bande comme ça qui venait à la maison et nous gardait, enfin nous gardait. Je pense qu'il n'y a aucun déjeuner ou aucun dîner se terminait normalement.
Ils avaient une envie, c'est qu'on retourne tout, que les parents s'en aillent très très loin et qu'ils puissent avoir de nouveau Jacques et Marco pour les garder.
Moi, j'avais jamais rencontré des gens de gauche et.
Et Pierre l'était.
Et Pierre et Henri.
Et Henri le sont.
Ouais. Et c'est là qu'en 4 mois, ma vie a changé, quoi. Crolla m'a orienté sur la musique à fond, parce qu'il m'a fait écouter Schoenberg, il m'a fait écouter pas seulement la musique manouche, mais plein de choses.
Et lui, c'est vrai qu'il s'est fait tout seul, parce qu'il était d'une famille très pauvre, il vivait sur la zone. C'est là qu'il a connu les Gitans et Django. Il y avait les Italiens au milieu, Porte de Chambly, puis autour, il y avait les roulottes des manouches. Et sa sœur me disait que tout petit, il était plus dans la roulotte de Django qu'à la maison. Hein.
Et évidemment, il a appris la guitare.
Ah, bah, tout seul, lui, là. Ah, bah, tout seul.
Il
a commencé par le banjo, et puis après, il a... Banjo, il jouait dans les rues, il jouait à Saint-Germain, il jouait à la terrasse des bistrots, hein.
Et elle m'a considéré comme son enfant aussi, son fils, quoi. Ou son petit frère. Et Colette, Crolla, c'est devenu comme mes parents adoptifs. C'est devenu comme des parents spirituels. Je les aime toujours, d'ailleurs, tellement l'un et l'autre. Même si Henri n'est plus là, il est toujours là. Et Henri m'a donné toutes les bases, plus la guitare pour le faire. Et en plus, il m'a appris un truc fabuleux parce qu'il n'arrêtait pas de déconner. J'ai jamais rencontré un mec de 40 ans aussi drôle, aussi plein d'humour, plein de... un humour frisant la provocation, mais toujours souriant, toujours généreux, quoi, ce qu'il était. Mais il a fait flipper plein de gens qui se prenaient au sérieux, quoi. Ça, il m'a inculqué ce truc-là. Après, le virus était pris, c'était fini, quoi. J'ai compris ce que c'était que l'humour était quelque chose d'extrêmement... c'était l'arme des gens qui n'ont pas d'armes, enfin qui ne sont pas violents, qui ne sont pas haineux, qui ne sont pas vengeurs, qui ne sont pas... Tu vois,
est-ce qu'être... avoir pour père adoptif Pierre Goupil et surtout... Henri Crolla.
Les deux, pareil, d'ailleurs. Surtout parce que les deux m'ont formé, vraiment.
Henri, c'est aussi être leur fils. Et être le fils d'Henri Crolla, j'ai l'impression que, quelque part, même encore maintenant,
si vous êtes le fils de quelqu'un, c'est quand même d'Henri, non?
À beaucoup de niveaux, ouais.
Dans sa vie aussi, de Crollard, Jacques était une figure majeure, était très importante dans sa vie. Ils avaient plein de points, ils ont plein de points communs finalement. Ils sont à la fois révoltés et tendres, révoltés contre l'injustice, contre le racisme, contre la bêtise, contre tout ça, c'était un révolté. Et en même temps, c'était un clone, Crollard. C'était sa défense, il jouait tout le temps un personnage. Puis c'était un artiste formidable, un grand, grand guitariste de jazz, un grand... C'était vraiment quelqu'un de merveilleux. Et Jacques l'adore, puis il lui a beaucoup fait travailler la guitare, beaucoup montré des choses et tout. Et il disait à Jacques au début, il m'avait dit à moi, tu sais, s'il arrive à se canaliser... Hein, c'était un peu jeune fou à l'époque, et avec le talent qu'il a, les dons qu'il a, ça sera quelqu'un de très grand. Et...
Moi, je n'ai jamais considéré comme mon fils, mais comme un frère. Et donc maintenant, si on a un rapport, c'est un rapport de fraternité. Ce n'est pas un rapport entre père et fils.
Et alors, ils se recroisent après sur un second film ?
Le bonheur est pour demain. Oui, le film au bout duquel Crollard est mort, quoi. Ça a été des grands moments aussi, ça. Parce qu'ils ont quand même vécu longtemps ensemble. En plus, ils avaient un petit peu les rôles dans le film qu'ils avaient dans la vie. C'était un peu son père, un peu le personnage du film. Et puis c'était les débuts de Crollard. Enfin, Crollard avait tourné des petits films avec Grimaud, des petits courts-métrages comme ça. Mais c'est la première fois qu'il avait un rôle, quoi. Mais il jouait dans la vie constamment, Crollard. Hein. Jacques aussi.
Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est une rencontre qui l'a profondément marqué.
Oui.
Or, ils ne se sont vus que pendant un an et demi. Entre la première rencontre...
Octobre 60, après le film... Et 58, Saint-Tropez, ça doit être 58-59, quoi.
Ça, donc.
Oui, oui.
Ça a vraiment été
et ça me paraît très long. Moi, j'ai l'impression que on s'est toujours connus, quoi. C'est fou. Puis ils ont tellement... Jacques l'a tellement compris, tellement... appris de choses de lui, enfin, il a... Et en même temps, Crollard a reçu beaucoup de choses de Jacques. C'est vraiment comme un père et un fils, quoi.
Et Henri m'a fait cadeau pour mes 19 ans ou mes 20 ans d'une guitare qu'il a fait construire pour moi par un mec qui s'appelait Di Moro, un Italien aussi. Et cette guitare, je l'ai toujours, quoi. Et elle sonne merveilleusement. Et je voyais toujours Henri, après, en dehors du film et tout. Et Henri m'a repris à la guitare avec lui. On avait commencé sur Saint-Tropez Blues. Et sur Le Bonheur est pour demain, je jouais beaucoup avec lui tous les soirs. Ou dans la chambre d'hôtel, il venait jouer avec moi. Et il me montrait les accords et tout. Et Henri m'a dit, un jour, il m'avait mis un mot sous la porte. Et puis là, il m'a dit, un jour, tu seras non seulement un grand musicien, mais un compositeur. Et tu verras. Voilà, il m'a dit, j'y crois très fort et ne doute pas de ça.
Mais je veux dire, effectivement, il lui a offert pour ses 20 ans, un petit peu avant.
Et il lui a pris en jouer.
Oui. Henri est mort le 17 octobre et Jacques, son anniversaire, c'est le 18 octobre. Mais il lui a donné pendant le film, certainement. Parce qu'en fait, il savait très bien où il allait. Il savait très bien qu'il allait mourir et qu'il était très malade.
Ça pose quand même question d'avoir des rencontres comme ça qui durent très peu de temps et finalement qui vous marquent pour toute la vie. Aussi bien vous en parliez tout de suite, que Jacques.
Ça m'a marqué. D'abord, j'ai rencontré plein de gens que je n'aurais jamais rencontrés grâce à lui. Sa famille, c'était Prévert, c'était Grimaud, c'était tout ça. Et non, pour moi, les choses sont écrites. C'est Jacques Prévert qui m'a dit un jour, parce que je lui parlais, il m'a rencontré tout ça, et il me dit, et puis des jalons de ma vie qui étaient comme écrits avant. Et il me dit, mais tu sais, on est tous sur des fils. Et alors on se frôle, on s'écarte, on se frôle, on s'écarte, et un jour on dit, ah, mais rien n'est gratuit. Moi je crois à ça.
Henri donc est mort, je suis parti à l'armée.
Il a été très important, il a décidé pratiquement de la vie, de ce qu'est la vie de Jacques maintenant. Hein. Je crois que ça l'a encouragé tellement.
Et là, c'est Pierre qui a pris la relève et qui m'a nourri en livres, parce que c'était la guerre d'Algérie. Et m'a filé la question d'Henri Alleg, m'a envoyé des bouquins. Les Thibault, de Roger Martin Dugard.
J'ai même essayé de lui dire qu'il n'y avait pas de gourou, qu'il n'y avait pas de nationalisme, et que tout en étant chacun un individu, ce qu'il fallait être, il fallait être aussi à l'écoute des autres individus, mais pas du tout le dogmatisme qu'on peut avoir dans les partis, et au contraire, essayer de les survoler, de prendre ce qu'il y a de bon en eux, et de pas se laisser trop influencer, et d'essayer toujours de voir pourquoi. Et c'est ce pourquoi que j'ai essayé de faire passer, si tant est que je puisse faire passer avec quelque chose. Être libre et être, avoir à la fois le sens de la dérision et à la fois le sens le sens des autres, c'est-à-dire comprendre une grève, même si on est emmerdé par le manque d'électricité. Être solidaire en somme.
Lui et Irène Pipouche. Irène qui était mon premier vrai amour. J'avais fait l'amour avec des filles, mais j'étais tendu, j'étais pas à l'aise, tu vois. Et elle m'a appris ce que c'est que d'aimer, quoi.
Un soir, vous êtes passé. On s'est assis l'un en face de l'autre. Vous étiez sombre. Vous disiez les choses sans les dire. J'essayais de comprendre vos demi-mots. Je vous écoutais. Je souhaitais être la complice de vos tourments. Celle à qui on dit tout. Celle qu'on rencontre pour un instant. À qui on crache sa vie dans l'espoir qu'elle entendra. Peut-être n'étiez-vous pas venu pour parler. Vous aviez seulement besoin d'aller mieux. D'être ailleurs. J'avais envie de vous voir sourire. De vous lire une histoire. Une histoire vraie. Écrite et racontée par vous. Par nous. De vous laisser venir. De vous laisser entrer dans ce jardin secret où j'ai gardé vos lettres. Là où le temps s'est arrêté. Pipouche.
Cette femme et ces deux hommes ont été formidables. Plus Colette, qui était formidable aussi, pareil.
Nous pensons que nous n'avons qu'un seul homme et c'est le général Salin qui commande.
Oui, mais je veux dire, est-ce que vous trouvez que telles pratiques sont excusables
À nous, j'en ai fait de plus. Ça nous a tué les enfants, nous a éventré les femmes. Alors, qu'est-ce que vous que nous demandons? Nous ne demandons plus rien.
Mais ici, dans le quartier, vous connaissez personnellement les musulmans dont le magasin...
Je suis parti à l'armée, j'avais emmené la guitare d'Henri avec moi. Et j'ai voulu me faire passer pour fou, mais il y avait déjà Jean-Pierre Calfon qui était en train de faire le même numéro avant moi. Je déchirais des feuilles jusqu'à la nervure, tu vois, pendant des heures, et je creusais un caillou avec un... Donc je suis monté à l'infirmerie. Et là, je ne sais pas si c'est une chance ou pas. J'ai rencontré Marco Picot, et Marco Picot était aussi un assistant de Jean Renoir, était un copain de Pierre Goupil, de Henri Crollat, il les connaissait. Et tout d'un coup, j'avais emmené la guitare que je lâchais pas avec moi à l'infirmerie, puis un soir, j'en pouvais plus, j'ai joué. Et il est rentré, il a dit, mais tu joues comme Henri Crollat. Il dit, je connais bien, c'est incroyable. Et là, il y a eu une grande conversation entre nous deux, et j'ai dit, écoute, faut pas que tu le dises, je suis en train d'essayer de me faire passer pour fou, je veux pas faire la guerre d'Algérie, je veux pas te tuer. Je m'en fous d'être à l'armée, parce que là, je m'en fous de tout. Comme Henri est mort, je suis trop... Tu vois, je me serais engagé à la Légion. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était une perte terrible, quoi. Et puis, il m'a convaincu en me disant, écoute, faut qu'on noyaute l'armée, les appeler, quoi. Il faut qu'on soit là parce qu'il faut pas laisser faire ça et il faut qu'on soit là, quoi. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse une contre-éducation de tous les appelés, tout ça. Et comme j'avais commencé à lire plein de bouquins là-dessus, j'ai pensé ça aussi à un moment. Et puis, ils ont marqué guéri parce que j'ai commencé à dire, OK, je vais vivre ça.
Tout d'un coup, Jacques part au service militaire et vous faites du souci pour lui.
C'est-à-dire qu'on n'avait pas de nouvelles. Hein. Il n'écrivait pas beaucoup, Jacques. Mais bien sûr, on a pensé à lui en Allemagne, en Algérie, hein, surtout. Mais bon, il avait à écrire surtout Irène. C'est formidable. C'est un grand écrivain. Elles sont superbes, ces lettres. Superbes. Et en plus, on suit les événements. C'est vraiment un reportage fantastique à côté. Hein.
J'ai pillé comme un sale voleur. Et c'était la période, j'étais fou, amoureux, dingue. La période où on découvre l'amour.
Cali.
On découvre l'amour, on est foudroyé par un visage, par un sourire. Et je rentrais chez moi et je pleurais de joie d'avoir la chance de vivre cette vie-là, une vie où je suis amoureux de quelqu'un absolument, et je voulais la serrer dans mes bras, et quand elle était pas là, quand je m'éloignais, quand elle était loin d'elle, quand j'étais loin d'elle, je me suis dit il faut lui dire, faut écrire ces mots-là, et puis je suis tombé sur ces lettres d'amour. Et j'ai commencé à feuilleter ces lettres. Elles m'ont complètement enflammé. Et c'était exactement l'histoire que je vivais à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire, mais c'est exactement les mots que je veux lui dire. Alors j'ai pris une phrase, et puis j'ai pris deux phrases au milieu de mes lettres, et puis j'ai pris trois phrases à Jacques, et puis j'ai pris quelques phrases, et puis pour le coup après je piquais des lettres entières et je lui envoyais les lettres, et je les adaptais à mon et je crois que ça a permis que... Enfin, je crois qu'elle est restée pas mal de temps avec moi grâce à ça, je crois. Merci, Jacques. En tout cas, je peux le dire, j'ai tout pillé, mais peu importe, quoi. C'est comme si on va sous la fenêtre de quelqu'un déclarer sa flamme en piquant des vers de Shakespeare, quoi. C'est pareil, quoi. Voilà. Moi, c'était Jacques Higelin. Ouais.
Et puis, Irène est venue me voir plusieurs fois, là-bas. Et puis elle est venue me voir de temps en temps, ça m'a aidé en Allemagne d'abord. Je suis resté longtemps en Allemagne en fait, j'ai passé 6 mois en Algérie. Et j'étais à côté d'un... Il y avait la musique militaire, en fait ils m'ont foutu dans la musique militaire. Et là c'était comique parce que Marco Pico était dans une autre caserne et on a fini par rigoler de ça. Et il y a tous les mecs qui faisaient retailler leur costard pour avoir l'air séduisant, tu vois ce que je veux dire. Et nous deux, on s'arrangeait pour avoir l'air de plus en plus ridicule, quoi. Et j'ai juste des souvenirs comme ça. Bon, on a fait nos classes, c'est-à-dire ils t'apprennent à tirer, ils t'apprennent à te mettre au garde-à-vous et tout. Moi, je faisais tout ça de travers. Mais il y avait la musique militaire et ils m'ont filé grosse caisse, tu vois. Poum, poum, poum. Tan, ta, 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 un coup. Poum, ta, 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 ta. Bam, 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 ta da da da, tam, 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 ta da da da.
Mais à l'époque, on était militaire pour 27 mois, 27 jours. C'est long, hein. Et l'Allemagne était une zone de transit pour les ce qu'on appelait la FCB, la formation commune de base. Et je crois que c'est à Rastatt.
Et puis, il y avait Areski Belkacem qui jouait des cymbales. Non, là, du tambour. Pas des tambours, les caisses claires, là, tu vois. Et alors après, on avait trouvé un trou dans la clôture, on se barrait. Il y avait un bois à côté et on allait jouer ensemble, faire de la musique et aller se balader, quoi.
Et moi, j'étais radio et j'étais dans la compagnie... de la musique. Il y avait une compagnie où il n'y avait que des musiciens, des comédiens, il y avait des peintres, il y avait une compagnie comme ça. Évidemment, j'avais quel âge, 19, 20 ans, quoi. Alors je cherchais les boîtes.
Areski Belkacem.
Dans cette ville où il y avait de la musique. Et on se barrait la nuit et tout ça. Puis on se rencontrait dans ces lieux où il y avait des musiciens allemands. Et on faisait ce qu'on appelle le bœuf, quoi. C'est-à-dire, on jouait avec eux, puis de rencontre en rencontre, on a monté un petit orchestre dans la compagnie, et on a jugé Jacques indispensable. Et je sais plus à qui on a parlé, et puis peut-être au capitaine de compagnie, et il l'a fait venir dans la compagnie de la musique. Donc il y avait un orchestre qui jouait aux messes des officiers.
Et en même temps, on faisait partie de la... De, comment ça s'appelle ? C'est une clique, quoi, une fanfare militaire. Vous savez, quand on recevait des je sais pas, des généraux, des machins, la levée des couleurs... Les... Moi, j'étais tambour. Et lui, il était à la grosse caisse. Et donc, on faisait partie de la clique de l'armée qui se déplaçait avec tous les régiments à chaque fois qu'ils avaient besoin. Et on faisait le bal des officiers. C'était les week-ends. On allait le samedi aux messes. Et on jouait du Django Reinhardt, des Jazz Messengers, des trucs comme ça. Enfin, c'était marrant.
J'ai eu des visions à la Fellini, tu vois, de mecs avec des femmes de militaires, et puis des putes, et puis, tu vois, une ambiance. Ça puait l'alcool, les autres, ils étaient complètement rétamés. Et puis les défilés militaires et tous ces trucs-là, quoi. Des trucs de vision. Et il y avait un copain qui s'appelait Matarazzi. Il doit vivre encore, qui était mineur, en fait, tu vois, qui était dans l'Est. Beaucoup d'Alsaciens, beaucoup de gens du Nord aussi. Et qu'on envoyait dans l'Est parce qu'ils étaient Alsaciens, hein, tu vois. C'est aussi con que ça. Et il jouait saxo-baryton. Et quand le soir, tout le monde était dans les... Et qu'il n'y avait pas de contrôle et qu'on était dans les chambrées, on allait jouer dans les chiottes hein, du jazz, tu vois, parce que ça résonnait bien, ça faisait de la musique, puis tous les copains venaient voir. Mais j'ai découvert une certaine forme de... Le côté positif, c'est que tout d'un coup, moi qui étais assez solitaire et vraiment à l'écart de tout... Je me suis mis à me prendre de sympathie pour tous ces jeunes mecs qui avaient mon âge, en fait. Et puis aussi, je leur faisais lire des bouquins. Et puis aussi, je leur parlais de la guerre d'Algérie, tu vois, de toutes les informations que j'avais par Pierre Goupil et par des journaux que j'achetais. Et puis de faire une contre-propagande, parce qu'il y avait une propagande énorme dans les casernes de racisme, mais à pousser vraiment loin, quoi. Les Arabes, ils appelaient les bougnoules, les ratons. Tu vois, c'était vraiment dégueulasse, quoi.
J'étais plutôt du côté de ceux qui pensaient qu'il fallait pas y aller. Donc, plutôt du côté des 101 qui avaient signé la pétition. Donc, il n'y a pas eu de heurts parce que il était déjà suffisamment emmerdé pour qu'en plus je l'embête avec mon opinion. Et que, en fait, c'était lui qui était impliqué. C'était, moi, j'étais impliqué indirectement, mais pas directement. C'est-à-dire que j'étais contre la guerre d'Algérie, mais comme j'y étais pas, c'était moins dangereux que pour lui.
Du coup, on était tous très inquiets. Toute la famille et bien sûr tous les amis étaient opposés à cette guerre d'Algérie, à la présence de l'armée française en Algérie, étaient pour la libération du peuple algérien et tout à fait contre la présence des appelés. Du coup, il y avait des discussions auxquelles j'ai assisté. J'étais vraiment tout jeune. 10 ans en permanence sur la torture, sur la présence de l'armée française, sur le fait de y aller ou pas. Et là, cette discussion se passait à la maison avec un tout jeune homme qui avait à peine, enfin qui devait avoir 20 ans à l'époque.
Oui, parce qu'en plus, les événements en Algérie, je veux dire, c'était risqué quand même. Hein, pour les appelés, les jeunes appelés de l'époque, d'aller faire leur service militaire en Algérie.
Ah oui, mais ça... Henri n'a pas connu ça. Il a connu le début de ce qui se passait en Algérie, puisque je me souviens qu'un jour, je suis allée le voir à l'hôpital quand on allait l'opérer. Et il a vu ses biopsies, tout ça. Il savait très bien que on l'opérait, c'était une forme d'euthanasie. Il ne voulait pas, il a dit, je ne veux pas qu'on moi... Voilà, non, enfin, je ne veux pas... Et il a, quand je suis allée le voir, il avait ses résultats et je le trouvais très bien. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est, moi, mon cas, à côté de ce qui se passe en Algérie? C'est formidable, il était la veille d'une opération, on ne t'y reviendrait pas.
Il se tracassait encore pour les autres.
Ah oui. Ah mais il a toujours... Il se sentait responsable de la misère du monde. C'est fou, hein.
Et puis j'ai trouvé forcément parmi tous ces mecs de 20 ans des intellectuels aussi, des tu vois, des mais pas seulement, aussi des ouvriers, des mômes de famille ouvrière, des mômes de, qui avaient été là parce qu'ils faisaient partie d'une fanfare et qu'ils étaient utilisés pour ça, quoi. Donc ça n'a pas été spécialement pénible. Il y a eu de bon plein de trucs, mais ça c'était pareil pour tout le monde, donc tour de garde, etc., quoi. Mais les tours de garde, c'est pareil. J'étais tout seul avec mon flingue à garder des entrepôts de munitions. Et puis en même temps, ça me remettait à une place avec tout le monde, quoi. Tu vois. Et en même temps, comme j'avais fait un peu mon éducation avec Pierre Goupil, qui n'était pas communiste, il était plus anarchiste que communiste. Mais Pierre était très cultivé, lisait énormément et donc m'envoyait des bouquins sur la torture en Algérie. Henri Alleg, La Question. Un bouquin qui s'appelait comme ça, et qui parlait justement de mecs torturés et tout. Et finalement, j'ai fait mon éducation réellement. J'ai lu j'ai commencé à lire Le Capital, j'ai commencé à lire de Karl Marx.
Tout d'un coup, une ouverture au monde, une ouverture aux autres, une ouverture à d'autres mentalités.
Ben, c'est-à-dire ce que tu as dit tout à l'heure. Avant, juste des jeunes de toutes les professions. Et finalement...
Qui n'avait peut-être pas forcément non plus ni la culture ni les moyens d'analyser.
Non, mais qui était où j'ai découvert... tu vois, on a toujours des idées a priori et puis on découvre la générosité, la solidarité aussi. Tu partages le froid, tu partages les tours de garde, tu partages les marches forcées, tu partages tout ça. Et finalement, j'étais pas du tout, bien sûr, branché sur l'armée. Mais ça me faisait rencontrer un autre, vraiment plus qu'un autre milieu. Ça me faisait aller au-devant de la population, quoi. Des enfants, du peuple. Et ce que j'étais aussi. Parce que finalement, mes parents étaient une famille très modeste. Enfin, on n'avait pas beaucoup de sous, pour ne pas dire limite, quoi. Et... J'ai commencé à comprendre plein de choses parce que pendant les tours de garde, des fois tu montais à deux, le tour de garde à deux mecs et puis on se parlait, quoi. Et ils me racontaient leur vie. L'un était maçon, l'autre était, tu vois, des métiers mineurs. Et j'apprenais vraiment tout ce qui était dur pour eux, quoi, tu vois. Et puis, comme je prenais jamais de permission, les fêtes, Noël, Nouvel An, tout ça, j'étais avec eux. Et je faisais de la musique. D'ailleurs, j'ai retrouvé des photos où je suis complètement ahuri avec une guitare et les mecs, ils dansent entre eux. Tu vois, j'ai connu toute cette fraternité tous les mecs qui pouvaient pas partir en permission parce qu'ils avaient pas de famille, parce qu'ils avaient, moi, c'est parce que je voulais pas, mais bon, c'est autre chose, quoi. Et finalement, ça m'éloignait de plus en plus d'un monde de, tu sais, quand on est jeune, il y a aussi de la prétention. Moi, j'étais pas comme ça, ceci dit, réellement, quoi, plutôt timide. Mais puis des mômes aussi de 20 ans qui avaient déjà une femme, un gosse, ou tu vois, et qui pleuraient des fois vraiment de tristesse, que tu consolais, que tu parlais avec. Ça m'a fait comprendre plein de choses. Quand t'es un appelé, c'est pas pareil, quoi. Même quand je suis allé en Algérie, les Algériens nous regardaient pas de la même façon, tu vois. D'abord, ils savaient ce que c'était, bien sûr, qu'un gradé ou... Puis par le ton, par la façon dont les gradés leur parlaient aux gens. Il y en avait des sympas. Il y avait des mecs bien, quand même, tu vois. Il y en a pas beaucoup, mais il y en avait. Et on les montait dans l'idée qu'il fallait en vouloir aux Algériens, qu'ils étaient français, que ceux qui se révoltaient, enfin c'est comme maintenant quoi, c'est comme les Chinois avec les Tibétains quoi, c'est pareil quoi, c'est fausse information, désinformation, lavage de crâne, bourrage de cerveau, c'est vraiment ça quoi, et avec plein d'anecdotes et puis des de temps en temps croiser des paras ou des légionnaires qui racontaient leurs exploits et c'était atroce quoi, tu vois, c'était atroce. Donc,
à 20 ans, ça doit être difficile quand même d'être confronté à des atrocités, à un conflit, et puis se retrouver sur une terre qui est une terre algérienne en tant que occupant, en tant que les personnes qui vont apporter la discorde, apporter les atrocités, alors que 20 ans avant, vous étiez plutôt. C'était les Allemands.
20 ans avant, j'étais enfant et
c'était
peur,
les Allemands
quoi.
Qui étaient les méchants. Quoi.
Ouais. Les militaires, de toute façon. Hein.
Et puis tout d'un coup, là, en Algérie, les méchants, c'était.
Ouais, c'était les Français, les soldats. Mais c'était pas. C'est marrant parce que là j'ai découvert aussi, d'abord j'étais jamais allé dans un pays autre que la France et je suis tombé dans une civilisation, dans un peuple et j'ai écrit dans les lettres que j'envoyais à Pipouche, Irène, c'était surnom, mais j'ai quand même assisté à la libération en 62, il y a eu le cessez-le-feu, il y a eu les accords d'Évian. Et puis la fête de libération totale, et c'était tellement pareil que la libération en 45, quand on a été libéré, quand il y a eu la fin de la guerre et cette espèce de liesse populaire. Et là, j'étais dans le sud de l'Algérie, à la limite de la frontière tunisienne, et les gens étaient vraiment, le peuple était vraiment dans une misère effroyable, quoi. C'était vraiment quand même. Très très dur avec des gens apeurés quoi, tu vois, que ça m'a en Algérie, je suis allé beaucoup vers les gens, vers le peuple algérien, et j'ai rencontré aussi des jeunes Algériens qui travaillaient pour le FLN, pas des soldats, des mecs qui travaillaient aussi pour comme des résistants et qui étaient incroyablement généreux avec nous et qui nous expliquaient quoi. J'ai pris des trains des fois pour aller d'une caserne à une autre et comme je parlais facilement aux autres quoi, et qui m'ont fait mon éducation aussi en disant tu es un jeune français, on t'en veut pas du tout, on sait bien que vous êtes enrôlé de toute façon, vous n'avez pas le choix, mais qui t'expliquaient ce qui se passait réellement, ce que c'était que la colonisation, ce que c'était depuis le début l'histoire, ça plus les livres de Pierre Goupil qui m'envoyait, et du coup il y avait aussi des militaires qui se confiaient à moi, des dégradés quoi, parce que les mecs ils étaient pas tous pour quoi, tu comprends, et puis à un moment donné ils te trouvent toi et tu dis mais c'est pas juste cette guerre et tout ça, et donc je discutais aussi avec les gradés en disant mais je suis pas d'accord moi. Pour ce qu'on fait là, c'est dégueulasse quand même.
Mercredi 21 avril 1962. Ma petite âme chérie, je relis votre lettre. Je comprends ce que vous me dites, c'est terrible. Pourquoi s'être ainsi attaché l'un à l'autre malgré tout ce qui s'y oppose ? Je me promène en long et large de cette caserne, avec une grande angoisse et du désarroi dans le cœur. Vous me demandez de la patience. Oui, j'attendrai. Aussi longtemps qu'il sera besoin. Je ne comprends plus rien à ma tristesse dans ce moment. Nous sommes jeunes, nous nous aimons, il y a tant d'espoir, du moins il y en avait. Et soudainement, tout est changé. Vous n'êtes plus sûr, vous hésitez, et je commence à penser que je ne compte plus pour vous, que vous me quittez sans oser me le dire, de peur de me faire trop mal. Parce que je n'ai peut-être seulement existé pour vous qu'en tant qu'individu, à sauver de son égoïsme, à qui il fallait donner goût à la vie et... Maintenant que le but semble atteint, qu'on détache de soi, comme on fait d'un enfant lorsqu'on pense qu'il est assez grand pour s'en sortir tout seul, j'ai l'horrible sentiment de ne vous avoir rien apporté, de n'avoir été qu'une passade.
Dans les lettres d'amour, ce qui est assez fascinant, c'est que c'est des lettres qui sont merveilleuses au niveau de l'amour,
Mais c'est un amour qui est un peu un amour impossible, tellement il est fort, tellement il est grand, tellement
ouais,
il est
puis,
énorme.
Et puis aussi et puis, absence, et puis, imaginaire.
Et puis il se finit pas bien.
Oh, je crois qu'il y a aucun... J'ai jamais connu une histoire d'amour qui... Si ça se finit, ça se finit mal. Il y en a un des deux qui souffre, sinon les deux. De toute façon, j'ai compris ça aussi, c'est que les deux souffrent.
Pourquoi ? Parce que l'amour est trop fort, parce qu'on est trop exigeant, parce que...
Non, parce que l'amour... Tu sais, on dit aimer pour la... Je t'aime quand quelqu'un dit c'est pour la vie. Moi, j'ai compris un jour que le fait de dire c'est pour la vie, bien sûr, c'est pas pour la mort. C'est pour la vie. Et chaque séparation d'un amour fort, qui arrive pour des tas de raisons, est toujours une douleur, un deuil. Il faut faire le deuil de cet amour. Et les deux souffrent. Même si c'est quelqu'un qui te quitte, il y a une... Bon, on n'est pas fait pour vivre tout le temps, toute la vie ensemble. Mais quand on dit « je t'aime pour la vie », je me suis rendu compte que les femmes... que j'aime ou que j'ai aimé sont toujours restés des amis parce qu'après ça pèse, après ça passe à autre chose et après tu comprends que oui on n'était pas fait pour on était fait pour la passion mais des fois la passion ça dure 2 ans et puis 3 ans et puis après ça il faut que ça évolue, il faut que ça change. Ça devient aussi la passion plus la tendresse. Et après, ça devient aussi la confiance. Et je plaide non coupable parce qu'il n'y a, pas de méchanceté, il n'y a pas de haine là-dedans. Il y a un moment donné, il faut que tu prennes une autre voie, quoi. Et puis voilà, c'est comme ça.
Je veux dire, la fin ne retire rien.
Au respect qu'on a pour la personne qu'on a aimée.
Et au contenu et à la qualité de la
ouais, non, rien, rien du tout.
Oh, je crois que ça ressemble fort à tous les amours passionnels, sulfureux et qui bouffent tout et qui détruisent tout et qui élèvent au plus haut et qui nous mettent dans tous les sens. C'est l'essence même de la vie, il n'y a que ça, l'amour. Le reste, on s'en fout. Et là, ce sont les mots absolument pour les décrire. Ils caressent les mots absolus. C'est-à-dire là, comment s'en approcher, comment le toucher, c'est avec ces mots-là, quoi. Je conseille à chaque amoureux de lire ça, quoi, de lire ces lettres d'amour d'un soldat de 20 ans. Je les conseille à chaque amoureux parce que quand on a serré très fort sa belle et qu'elle est plus là, ou quand on a serré très fort son prince et qu'il n'est plus là, avec ces mots, on revit les plus belles nuits d'amour et les plus grands moments, quoi, c'est clair, ouais.
Ça vient, hein, j'ai réveillé, ah ouais, c'est du 24 novembre 61, la nuit. Allemagne. Ça vient, j'ai réveillé ma guitare, elle commence un peu à m'aimer. Elle a l'air de s'appeler Pipouche, Irène. Elle attendait, elle aussi, que je me décide à lui faire des avances. Une guitare, ça ne s'aime pas n'importe comment. C'est très fier d'être guitare, une guitare. Surtout que la mienne s'appelle Crolla. Elle allait pas se donner comme ça à n'importe qui, de but en blanc. Sachant qui elle était, elle ne pouvait se permettre l'amour d'un musicien médiocre, encore moins une passade amoureuse. Non, il lui fallait un amant pour de vrai, un amant qui lui donna la vie, un nom. Un jour, amour, je m'adresse toujours à cette femme, vous verrez, je saurai vous rendre heureuse. J'écrirai de la musique pour vous la chanter, parce que vous êtes venue, parce que vous êtes restée. J'ai compris que ma guitare était belle, que m'apportant la vie par amour, vous ne pouviez vous tromper. Je me sentais si dispersé, incapable de pouvoir jamais me réaliser dans l'art, et je découvre progressivement que ce n'est pas chose impossible. Quel bonheur après un jour de travail à l'écoute des premiers résultats. Oh, bien timide encore, lorsqu'on prend conscience de ses possibilités. Ça a été une forme d'épreuve d'apprentissage. Comment on est quand on est enrôlé dans une histoire dans laquelle on veut pas être, quoi. Et pendant 2 ans et 4 mois, j'ai vécu ça. Je suis pas monté en grade parce que je voulais pas. Donc, je suis resté 2e classe. Et puis, j'aimais pas l'armée. J'aimais pas ça. Bon, j'étais contre, quoi. Ça m'est resté d'ailleurs, mais. Sauf que j'ai vu de l'intérieur.
Est-ce que ça peut permettre aussi d'avoir un autre regard maintenant et se dire que bon, il y a l'armée
avec un grand A qui est la machine, et puis finalement il y a les hommes qui la font.
Mais c'est toujours des êtres humains qui...
Qui sont pas tous achetés non plus, quoi.
Non, bien sûr. T'as des crétins, t'as des lâches, beaucoup de lâcheté, beaucoup de peur en fait. Peur du grade supérieur, les engueulades, les vexations, les humiliations. En fait, c'était l'école de l'humiliation aussi. L'âme, c'est la musique. Et la musique, c'était la liberté. Et chanter, c'était la libération. Et dans des conditions de contrainte, le fait de chanter, même pour les autres, chanter dans une chambre, dans une chambrée, ça a été mon premier public, si on veut, quoi. Mais ça a joué quand même dans ma vie de comprendre ça, parce que après, j'ai plus été jamais comme ça, quoi. Tu vois, ça m'a permis aussi de respecter les gens qu'on croise, les gens avec qui on travaille, sans savoir d'où ils viennent, sans savoir quel est leur extrait de naissance, d'où ils viennent et tout, et puis passer par-dessus, leur serrer la main et dire on peut discuter, quoi, il faut qu'on parle, et moi je pense pas pareil, mais je t'écoute, quoi, et je suis attentif à ce que tu dis, parce que comme ça tu comprends aussi les causes. Parce qu'on peut pas, on peut rien guérir dans la vie si on comprend pas d'où ça vient, quoi. On peut pas. Tu ne peux pas parler aux autres si toi-même tu n'as pas compris, quoi. Et un soir, j'étais, oui, engagé dans du théâtre aux armées pour jouer de temps en temps une pièce à Baden-Baden en Allemagne. Et un soir, il y avait un vieux magnétophone, tu sais, qui était très lourd avec des bandes là pour la pièce. Et le mec avait des bandes vierges. J'ai joué, et puis il y avait un micro, et puis j'ai dit, tu veux pas m'enregistrer? Et je me suis écouté après, j'ai dit, mais putain, c'est en chantant du scat, du jazz, puis en chantant une chanson ou deux. Je me rappelle, je chantais la chanson de Jean Ferrat, Ma môme. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle porte pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Et j'avais chanté tout ça, tu vois, ou des chansons de Brel, révoltées, tout ça. Tous des gens qui me nourrissaient mon esprit, mon cerveau, mon cœur aussi. Et cette nuit-là, je me suis dit, voilà ce que je veux faire, quoi. J'ai jamais eu de regret là-dessus, en me disant, t'as passé 2 ans, 1 quart et 4 mois, t'aurais pu te faire réformer, ouais. Donc ça a été un choix, et ce choix je le regrette pas, parce que ça fait une vraie coupure, et au lieu de démarrer comme un des jeunes espoirs du cinéma, et qu'après je serais... C'est vrai qu'à 20 ans, à 22 ans, j'aurais été un jeune premier, ça roulait, quoi. Et c'est aussi à l'armée que le fait d'être dans la musique militaire et d'avoir la guitare de Henri Crolla, j'ai joué beaucoup, et je me suis mis à travailler la guitare avec tout ce que Henri m'avait appris pendant 4 mois. Je me suis mis à écrire des textes, donc des lettres, donc à faire travailler ma pensée. Ça m'a plombé, mais dans le beau sens du terme. Ça m'a donné du poids dans mes pensées.
Sa mère adoptive. Oui, non, c'est vrai, mais...
Si lui, il vous décrit comme étant sa mère adoptive, vous l'écrivez aussi comme votre fils adoptif. Oui.
Il m'appelle Colette, hein, mais je sais qu'il pense... Oui, non, mais c'est vrai. Mais...
C'est un Colette qui est tellement maman...
Oui, non, que... mais c'est vrai. Je pense que de temps en temps, il a besoin de moi, de me voir, de me parler. On se donne beaucoup et on se dit qu'on s'aime. C'est ça qui est formidable.
Jacques Higelin, sur France Inter. Réalisation, Dominique Martineau-Lagarde. Assistant de production, Julien Vanasse. Une production de La Première, RTBF, pour les radios francophones publiques.
Et quand je suis revenu de l'armée, tout avait changé. Je voulais plus être acteur, je voulais plus être comédien, je voulais être musicien, je voulais être chanteur. Et je voulais pas être chanteur pour être chanteur, je voulais chanter pour parler et dire des choses que je pensais. Alors voilà, j'ai formé mon esprit, enfin deux personnes m'ont aidé, m'ont ouvert le cerveau, l'esprit. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'au milieu de l'armée, que l'affaire était grave, et en plus en Algérie, quand j'ai découvert les atrocités et tout ce qui s'y passait, quoi. Donc ça a bouleversé ma vie, et quand je suis revenu, je voulais plus faire semblant, je voulais plus être comédien, je trouvais que c'était extrêmement
futile.
Je voulais pas être, je pouvais pas rentrer là-dedans, quoi, tu vois. Je pouvais plus. Chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie. Dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant, où l'homme apprend la guerre à ses enfants.
Igelin 2016, c'était le deuxième épisode du feuilleton des radios francophones publiques. Demain à 14h, troisième numéro de Bébert à Pierre Barou.